Bien, je suis particulièrement heureux d'accueillir ce soir les quatre intervenants qui m'entourent, que je vais non pas présenter, je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de les présenter, mais en tout cas introduire d'ici une minute. Je voudrais rappeler que cette soirée fait suite à une première soirée que la BPI avait organisée fin juin et qui avait consisté en une présentation du projet Google. Nous avions donné la parole aux représentants de Google en France qui avaient été interpellés par plusieurs bibliothécaires, dont Michel Fingerhout que je vois ici présent. L'objectif de la soirée étant surtout d'essayer d'expliciter le projet Google, notamment dans ses dimensions industrielles et économiques. Nous avions à ce moment-là annoncé qu'une deuxième soirée aurait lieu qui donnerait la parole notamment à Jean-Noël Jeannet, président de la Bibliothèque nationale de France, qui... chacun le sait, peu de temps après l'annonce du projet Google, avait publié une tribune dans Le Monde appelant à l'élaboration rapide d'un autre projet de numérisation. En quelque sorte, la soirée de ce jour est le prolongement donc de cette première rencontre qui avait eu lieu au mois de juin. Mais elle sera aussi différente. Elle sera différente en ce sens que, bien sûr, nous demanderons à Jean-Noël Jeannet de nous faire le point sur ce qu'est devenu le projet de bibliothèque numérique européenne qui a pu voir le jour, notamment grâce à la tribune du mois de janvier dernier dans Le Monde que je citais à l'instant. Donc nous lui demanderons, parce que c'est du plus grand intérêt pour nous tous, où cela en est, mais l'autre aspect de cette rencontre sera de rentrer un petit peu dans les approches de ce que peut être la bibliothèque numérique, de ce que peut être une bibliothèque numérique, et à partir de textes, le texte que Jean-Noël Jeannet a publié aux éditions Mille et Une Nuits, « Quand Google défie l'Europe », et le texte que Patrick Bazin, mon voisin, le directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon, a publié dans la revue Medium, revue numéro 4 de la revue Medium, juillet-août-septembre 2005, un texte qui s'appelle « Après l'ordre du livre » et qui propose une réflexion et une approche, disons, différentes sur certains points, complémentaires en tout cas, et différentes sur certains points. La revue Medium, qui est dirigée par Régis Debray, dont je suis heureux de saluer et la présence et la fidélité à la BPI, puisqu'il était là il y a encore peu de temps, mais pour parler de Jacques Derrida, dans cette même salle, et avec qui nous entretenons, nous avons une collaboration régulière, autrefois avec les cahiers de médiologie, et donc désormais avec la revue Medium. Le quatrième intervenant de cette soirée sera Michel Melot. Michel Melot, dont je rappelle qu'il fut le très grand directeur que l'on sait de la BPI, mais qu'il a bien d'autres qualités, ancien président du Conseil supérieur des bibliothèques et en quelque sorte prophète de la numérisation à une époque où on n'en parlait pas encore énormément. Je vous recommande un texte peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais très intéressant quand on le relit, ce qui a été mon cas pour la circonstance, de propositions pour une grande bibliothèque où l'on trouve des propositions en matière de numérisation qui étaient tout à fait prémonitoires, audacieuses pour cette époque, 1989, ça n'est pas si loin, audacieuses au point que ça lui avait valu dans une réunion d'assez vertes remontrances de la part du représentant du ministère des Finances, alors que la proposition était somme toute assez modeste, puisqu'il proposait que la future très grande bibliothèque, qui est devenue depuis, vous le savez, la Bibliothèque nationale de France, ouvre avec un total de 40 millions de pages numérisées. Le président Jeannet nous dira qu'aujourd'hui, Gallica, et c'est heureux, c'est beaucoup plus. Alors, le débat portera notamment sur le fait que, je crois que s'il y a accord sur l'intérêt et la nécessité de numériser le plus grand nombre possible de documents, et pas seulement les livres, il y a, malgré tout, comme je le disais, un petit peu deux approches. Comme on ne voit pas très bien, là, je ne sais pas si...
On
ne voit pas la salle du tout. Oui, oui, merci. Le président Jeannet, dans le petit livre que j'ai cité, écrit notamment « Il s'agirait d'un projet culturel répondant à cette question primordiale, comment mettre à disposition des richesses intelligemment choisies et utilement organisées en corpus ?» Et il développait « L'autre supériorité éclatante que nous pourrions assurer en face de Google Print serait de refuser le désordre à la « va comme je te pousse » ou même de dépasser une organisation de l'offre selon le simple décalque de classement des bibliothèques anglo-saxonnes numérisées, ce serait la meilleure manière de répondre à cette inquiétude lancinante du n'importe quoi, de la dispersion du savoir en poudre, dont on a vu que le président des bibliothécaires américains s'est fait le dénonciateur persuasif et inquiet. Alors que, dans son texte, Patrick Bazin semble nous dire qu'au fond, la dispersion n'est peut-être pas un si grand mal que cela, et que la bibliothèque numérique, si l'on veut la faire exister, doit peut-être s'éloigner un peu du modèle de la bibliothèque traditionnelle construite en collection et corpus. Voilà. Pour cette courte introduction, je pense que maintenant, si vous en êtes d'accord, nous allons donner la parole à Jean-Noël Jeannet, ensuite de quoi Patrick Bazin développera les propositions qu'il expose dans Medium. Nous ferons réagir brièvement Michel Melot et Régis Debré, de façon à ce que nous arrivions le plus vite possible au débat. Monsieur le Président.
Merci beaucoup. Je voudrais vous dire d'entrée de jeu à quel point je suis heureux de me retrouver ici pour bien des raisons. D'abord parce que c'est à l'initiative de la BPI, qui est notre ami, proche de nous. Ensuite parce que vous me rappelez des souvenirs qui remontent à 1989. merci. Je vois que vous corrigez de vous-même. Je dois rester sur le qui-vive. Qui remonte à 1989, au moment du bicentenaire, et nous avions eu l'occasion à plusieurs reprises dans des débats dans cette salle d'évoquer l'héritage des Lumières. Il me semble que l'héritage des Lumières, qui est si important, si essentiel, si vital pour nous tous, il est en cause aussi dans le débat d'aujourd'hui. Alors, vous me donnez le sentiment qu'il y aura du ragoût dans notre discussion, je l'espère bien, notamment parce qu'il y aura une différence marquée entre Patrick Bazin et moi-même. Nous allons voir. Ça m'a moins frappé à lire son texte intéressant, mais enfin... si nous sommes d'accord, ça prouvera que nous avons plus de chances d'avoir raison. Et si nous sommes en désaccord, le feu de la conversation sera assurément une source de satisfaction pour tous. Je retrouve une question qui est familière aux historiens. C'est le débat entre le tout nouveau et puis l'éternel. Jean-Baptiste Durosel à la Sorbonne aimait opposer ces deux alexandrins. Qu'est-ce que tout cela qui n'est pas éternel a aimer ce que jamais vous ne verrez deux fois. La question est de savoir si ce que nous allons voir, nous ne l'avons jamais vu. Il me semble que, c'est une réaction probablement d'historien, qu'on a tendance à exagérer, en l'occurrence, l'inédit. Non pas que je minimise le formidable apport de cette formidable invention que constitue l'Internet, mais quand Patrick Bazin dit, par exemple, dans son texte que on passe le vrai défi désormais ne réside plus seulement, voire principalement, dans la maîtrise des ressources, mais aussi et surtout dans celle des processus dynamiques de médiation et de partage. Cette phrase est forte, mais j'ai tendance à vous dire que Ça ne me paraît pas tellement nouveau. Déjà, à l'époque de Gutenberg, les processus dynamiques de médiation et de partage étaient absolument essentiels. Arrêtons-nous quelques brefs moments sur le précédent de Gutenberg. Bon, parce que le médiologue aime assez ce genre de va-et-vient, mais surtout parce que je crois qu'il est éclairant. Première observation à propos de Gutenberg, Gutenberg n'a pas supprimé l'écriture. Elle a modifié la manière dont on écrivait. Elle a modifié la relation de chacun avec la manière d'écrire, mais elle n'a pas supprimé l'écriture. Il n'y a aucun moment, aucun média nouveau n'a supprimé les autres. C'est rajouté. Souvent, les médias nouveaux ont permis de mieux mettre en valeur les médias antérieurs. D'autre part, si Gutenberg a permis une formidable mondialisation dans les limites de l'Occident chrétien des connaissances, notamment permis l'héritage gréco-latin, il leur a permis de se développer par le truchement de l'humanisme, en même temps, il a aussi permis de défendre et de promouvoir un certain nombre de cultures spécifiques qui sinon n'auraient pas eu le même moyen de se faire connaître. Celles qui ont souffert parmi les cultures, des groupes humains, des pays, on peut commencer à parler des nations, mais ce sont celles qui n'ont pas pu, pour des raisons diverses, utiliser assez vite l'imprimerie pour s'affirmer comme différentes. Et on était en pleine politique, et on est exactement dans le problème d'aujourd'hui. On est exactement en face du défi que la numérisation des bibliothèques pose devant nous. On est exactement, en tout cas à mes yeux, au centre de la bataille que nous nous efforçons de conduire et de cette conviction civique, culturelle, intellectuelle qui nous anime dans cette bataille et qui anime les bibliothèques nationales et qui anime tous ceux qui ont bien voulu prêter attention à cet appel, à ce plaidoyer pour un sursaut. Il faut faire de la politique, puisque nous faisons de la culture. La culture et la politique, au sens le plus noble, c'est évidemment proche. Donc, je n'ai pas besoin de redire qu'il s'agit à mes yeux d'un formidable progrès, comme ça a été le cas pour Gutenberg, parce que, pour tous ceux qui rêvent de réduire la fracture, le mot est à la mode, entre ceux qui ont accès aux livres et ceux qui n'y ont pas accès, en termes géographiques, en termes sociaux, en termes financiers, l'instrument est assurément magnifique, à condition qu'on le maîtrise, à condition qu'on ne se laisse pas ni désorienter par lui, ni égarer par lui, et que nous prenions conscience que rien n'est écrit dans l'avenir quant aux conséquences d'une invention de ce type. Les inquiétudes, par conséquent, que nous devons poser d'entrée de jeu, parce qu'il ne s'agit pas, après avoir salué, hurra, alléluia, le magnifique potentiel d'Internet, il ne s'agit pas de se laisser aller à un optimisme béat. Mieux vaut même être un peu plus inquiet, un peu plus pessimiste qu'il ne serait raisonnable pour se préparer à un avenir que nous maîtrisons. La première réaction, par conséquent, qui a été la nôtre en face de Google, c'est la crainte qu'il y ait domination d'une civilisation sur les autres. Vous avez bien vu que là, je suis obligé évidemment d'aller très vite et vous me pardonnerez si je ne suis pas très nuancé à chaque pas. Donc je vais à l'essentiel à mes yeux. Vous avez bien vu la manière dont les États-Unis d'Amérique ont réagi à l'UNESCO, à la proposition de soutenir la diversité culturelle. Ils ont été des très rares États à ne pas le signer. Je passerai très vite sur les accusations qui parfois nous sont venues d'Amérique en disant que nous manifestions un anti-américanisme sommaire, qu'une fois de plus, le coq gaulois se dressait sur ses ergots pour venger, etc., etc., etc. Le déclin français, c'est assez absurde. Il suffit de regarder sur Google Print, on a changé de nom, mais c'est toujours Google Print, Google Print Beta, ça s'appelle comme ça, c'est quand même une... Ça, c'est un hommage à la Grèce. D'aller regarder, par exemple, taper Victor Hugo, et vous verrez... je le dis déjà depuis quelques temps, ils ont peut-être modifié si c'est de bons commerciaux, mais je ne pense pas, je ne crois pas, d'après ce qu'on me dit. J'ai encore vérifié récemment. Victor Hugo, il y a 20 titres et ce sont tous des titres en anglais. Bon, il y a un ou, pour être franc, il y a un ou deux textes en français, mais présentés avec une glose en anglais. Même chose pour Cervantes, même chose pour Goethe, etc. Évidemment, ça concerne très directement la question de la langue, et on revient d'ailleurs à Gutenberg, et ça concerne très directement la question de savoir si on réussit à faire vivre prospérer véritablement des langues de culture à côté de la langue de communication, le pidgin semblable au grec abatardi qu'on parlait dans la Grèce hellénistique vers 100 avant Jésus-Christ. L'autre inquiétude, c'est évidemment c'est évidemment le risque que domine le ressort du profit. Là encore, je ne peins pas un diable contre le mur, c'est un formidable ressort pour la prospérité, depuis toujours, le ressort du profit. Simplement, nous pensons qu'il ne faut pas laisser la somme des intérêts des individus et des firmes, là pas plus qu'ailleurs, nous promettre le meilleur des mondes possibles. J'ai découvert avec beaucoup d'amusement, dès que j'ai regardé l'ensemble de l'équipe de Google, que le responsable de Google Print s'appelait Adam Smith. Alors ceux d'entre nous qui ont évidemment appris ce que c'était que la main invisible et cet éminent économiste écossais, qui avait affirmé justement qu'il y avait cette alchimie, que comme s'il suffisait de laisser aller la recherche du profit, que ça donnerait le meilleur des mondes possibles. Non, nous n'en croyons, nous n'y croyons pas. Et en particulier, c'est toute la question, on revient à la citation que Gérald nous a donnée, le problème de la hiérarchie, ils appellent ça page ranking. Qu'est-ce qu'on offre d'abord, hein, si on jette tout en touffe, effectivement, eh bien, dans ce désordre absolu, l'intelligence ne se retrouve guère. Il faut par conséquent, oui, des bouquets, il faut organiser les choses. Et tout cela, par conséquent, exige, me semble-t-il, une réaction au nom de quelques lignes assez simples. D'abord, la nécessité absolue de diversifier les acteurs. Il ne s'agit pas du tout dans notre esprit des bibliothèques seules. Il s'agit de mettre au travail tous ceux qui ont vocation à être médiateurs, c'est-à-dire aussi les libraires, c'est-à-dire aussi les enseignants, c'est-à-dire aussi, bien sûr, les journalistes. Mais observez que ce sont ceux-là aussi qui font le plus appel aux moteurs de recherche, parce que c'est un merveilleux instrument. Et par conséquent, s'ils n'ont pas le moyen d'être en face d'une offre organisée, alors qu'on ne leur propose pas un fil d'Ariane par rapport dans ce labyrinthe, eh bien alors, je crains fort qu'eux-mêmes ne puissent pas jouer le rôle de médiateur qu'on attend d'eux. Alors, il s'agit de travailler avec eux, avec les universitaires, avec tous. Et d'ailleurs, dans le projet de bibliothèque numérique européenne sur lequel je vais conclure dans un instant, c'est évidemment dans notre esprit cette coopération de tous qui doit s'accomplir. Mais je ne cache pas, je ne veux pas faire une fausse modestie, que le métier de bibliothécaire, même s'il évolue, et d'ailleurs dans son article Patrick Bazin, il fait à très juste titre allusion, si ce métier doit évoluer beaucoup, il doit à mon sens évoluer vers encore plus d'intérêt, puisqu'il s'agit d'être médiateur. D'autre part, il ne s'agit évidemment pas de poser la France contre les États-Unis. Ce serait absurde, je n'ai pas besoin d'y insister. Là encore, certains qui n'ont pas voulu débattre nos thèses en Amérique l'ont dit, c'est absurde. D'autre part, il ne s'agit même pas de l'Europe contre le monde, il s'agit vraiment de multipolarité. D'ailleurs, les Indiens, les Chinois ont commencé à numériser très rapidement depuis l'annonce de Google le 14 décembre 2004. Et c'est tout à fait significatif qu'il y a un grand intérêt. Pour ça, j'ai reçu une quantité de journalistes intéressés par tout ça. Ça touche vraiment les esprits et les cœurs. Mon livre va être traduit, je le dis peut-être par narcissisme, pas vraiment, je vous assure, va être traduit en arabe et en chinois et en allemand, etc. Ça veut dire que les gens ont envie de réfléchir à ces choses. D'autre part, l'autre conviction, c'est qu'il faut que les pouvoirs publics aient un rôle essentiel. Par conséquent, qu'ils s'en mêlent très directement. Et il faut que l'argent soit de l'argent en grande partie public. C'est d'ailleurs observé, toujours nous qui payons. Parce que quand on paye par la publicité, c'est nous payons comme consommateurs. J'aime mieux, comme dans le cas de la télévision, à vrai dire, j'aime mieux payer comme contribuable, même si ça paraît provisoirement plus désagréable, que comme consommateur. Donc il faut absolument que l'État s'en mêle et surplombe le marché. Mais pas du tout, bien sûr, être jacobin dans un domaine où le génie est celui de la dispersion. Le génie est celui des réseaux, c'est la diversité des initiatives prises. Mais il faut que tout cela soit surplombé. Surplombé par les décisions des États et surplombé par, je l'espère, les autorités de Bruxelles dans le cadre de l'Europe. J'ajoute enfin que rien ne se fera jamais sans les éditeurs et qu'il faut bien réfléchir à cette coupure qui existe entre ce qui précède le début des droits d'auteur et ce qui suit. Il faudra bien sûr que cette bibliothèque numérique européenne dont nous commençons de dessiner les contours s'attache à deux soucis majeurs pour ce qui est de la période antérieure, c'est-à-dire s'assurer qu'il y ait des critères qui soient déterminés de concert pour organiser ces corpus. Brièvement, je dirais fragilité des documents qu'il s'agit de numériser, rareté aussi, mais plus encore, importance comme socle des civilisations des uns et des autres. En ajoutant un critère supplémentaire, c'est la place que ces œuvres diverses ont pu avoir précisément dans la circulation de la civilisation en Europe depuis qu'on peut parler d'Europe. Et puis pour la période qui suit, 1930 à peu près, mais il faudra travailler avec les éditeurs et voir avec eux s'il y a des mesures qui peuvent être prises, qui les promeuvent et qui promeuvent les auteurs et leurs entreprises. Déjà observer qu'en Allemagne, l'association des éditeurs allemands annonce qu'ils vont procéder à une numérisation. Voilà, alors où en sommes-nous ? Eh bien, vous connaissez la chronologie. Décembre 2004, à son de trompe, Google annonce 15 millions d'ouvrages. Dès qu'on creuse un peu, on ne sait pas du tout combien ça va coûter, comment on va s'y prendre, comment s'organiseront les métadonnées, comment sera assurée la pérennité de tout ça. Mais c'est un grand effet. Ça frappe. Et du coup, naturellement, un certain nombre de bibliothécaires dont j'étais se sont dit, on va faire du judo. On va utiliser cette inquiétude pour mettre en valeur, mettre en branle notre ambition, c'est-à-dire, après l'expérience de Gallica, de changer de niveau, de changer de vitesse, et non pas faire de 15 millions d'ouvrages, mais de parler en termes de 1 million, 2 millions, et non plus en termes de 80 000, aussi fiers que nous soyons d'avoir Gallica. Ensuite, j'ai décidé de passer par le détour de l'opinion publique, et pas par le chemin de l'administration. Je n'ai pas fait un rapport à mon ministre en lui disant il faudrait faire ça, etc., parce que je craignais que par expérience un peu, qu'il arrive que dans ce cas-là, les choses soient un peu lentes à surgir. Et puis, la politique s'en est emparée. Barroso, Juncker, après le président Jacques Chirac, et tout ça avance. Alors maintenant, on a deux dangers. Qu'on revienne à un certain gallocentrisme, ça serait extraordinairement dangereux. On a contribué à lancer le mouvement, mais ça ne doit pas être une affaire franco-française. Il faut que ce soit une affaire européenne. Il ne faut pas se lasser de le dire. Et naturellement, on est obligé de le répéter souvent, puisqu'on a fait un comité français qui a pu donner à certains moments l'impression, même si c'est très utile ces travaux, que la France allait dire aux autres, là, ça serait vraiment le coq gaulois, ce qu'il fallait faire. Il convient d'agir autrement. Et l'autre danger, c'est qu'il y a une certaine lenteur de l'administration par rapport à l'initiative privée, étant donné que nous avons des règles, par exemple, c'est un peu long de lancer des marchés. Mais nous avançons vite. Les autres aussi, vous avez vu que Microsoft s'affronte maintenant à Google. L'Angleterre a choisi le grand large, une fois de plus, et a choisi Microsoft. Mais Google a donné généreusement 3 millions de dollars à la Bibliothèque du Congrès. Très bien, nous avons salué, c'est pour reproduire toutes sortes d'œuvres diverses. Ça bouge dans tous les sens. Et je pense, alors peut-être j'ai dit que j'étais pessimiste d'entrée de jeu par conviction que ça peut servir l'action. Là, je suis optimiste dans mon propos final. Je pense que compte tenu du formidable soutien que cette ambition reçoit de l'opinion publique, compte tenu du sentiment que nous avons que ça touche vraiment beaucoup la préoccupation d'un grand nombre de gens, bien au-delà des milieux concernés directement professionnellement, je crois que cette volonté-là, elle va forcément se manifester. Nous y travaillons, nous avons besoin d'énormément de soutien et par conséquent, nous avons besoin du vôtre.
Merci, Monsieur le Président. J'avais dit que je ne ferais pas de présentation en bonne et due forme, mais je vous prie de m'en excuser. Mais enfin, chacun aura reconnu, outre le président de la Bibliothèque nationale de France, l'historien, l'ancien ministre et le grand spécialiste du service public d'information. Patrick Bazin, donc directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon, dont je rappelle qu'il s'intéresse depuis très longtemps également à ces questions. Il a participé aussi à une des conséquences du rapport Melot, qui était la proposition d'étudier ce que pourrait être le futur poste de travail du chercheur ou du lecteur en bibliothèque.
Merci. Alors d'abord, merci vraiment vivement à Gérard Grimbert pour cette invitation. Mes propos sont un petit peu, je dirais, dans un registre différent de celui de Jean-Noël Jeannet, en ce sens que, contrairement à ce qu'a dit Gérald Grandberg, je n'ai pas de proposition alternative à faire au projet de la BNF, d'autant plus que, d'ailleurs, j'ai relativement peu d'informations sur les projets précis de la BNF en matière de bibliothèque européenne. Je me situe, je dirais, non pas à un autre niveau, mais dans un registre un petit peu différent, qui est celui, justement, de l'inquiétude du bibliothécaire que je suis, inquiétude mêlée d'espoir et d'enthousiasme par rapport à cette mutation que nous vivons, je dirais, déjà depuis au moins 15 ans. Gérard Grimbert a rappelé que j'ai effectivement eu la chance, et ça a été pour moi un temps fort de mon existence de professionnel, de participer au seul groupe de travail de l'établissement qui préparait la BNF consacré aux nouvelles technologies. Et j'étais le seul bibliothécaire dans ce groupe de travail. Il y avait avec moi des philosophes, des linguistes. Le groupe était présidé par Bernard Stiegler. Et J'ai beaucoup appris sur la révolution numérique, mais je dirais également sur les impasses dans lesquelles on peut entrer lorsqu'on y va avec des présupposés bibliothécaires classiques et, je dirais, humanistes classiques. Et là, je commence déjà une petite, je dirais, provocation par rapport à ce que Jean-Noël Jeannet a évoqué d'une façon très subliminaire à propos des Lumières. Je pense qu'effectivement, derrière la question des nouvelles technologies, l'évolution des bibliothèques, il y a l'évolution de l'épistémologie propre aux bibliothèques et à toute une configuration humaniste du savoir. Non pas que je sois anti-humaniste, certainement pas, mais je pense que l'humanisme a besoin aujourd'hui de se régénérer en quelque sorte et que cette régénération passe par non pas une mise en cause, mais par le fait de revisiter en quelque sorte la notion de lumière et en particulier d'encyclopédie. Jean-Noël Jeannet a dit, il n'a pas dit comme ça, mais il a dit rien de nouveau sous le soleil, en un certain sens. C'est comme ça que je l'ai compris et je suis d'accord avec lui.
J'ai dit n'exagérons pas l'inédit.
Et je suis tout à fait d'accord avec vous, bien évidemment. Et je dirais même que c'est ça le fond du problème. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil et je dirais que la saga du texte, je dirais peut-être pas la saga du livre, mais la saga du texte qui a commencé il y a bien longtemps, ne fait que continuer de plus belle et c'est merveilleux. Encore faut-il que les acteurs de cette saga, et entre autres les bibliothécaires, soient à la hauteur de cette saga. Sinon, elle va leur échapper. C'est justement ce qui est un petit peu en train de se passer actuellement. La bibliothèque numérique, puisque c'est le sujet de la soirée, elle existe déjà. Alors là, je pense que Jean-Noël Jeannet ne sera pas d'accord lorsque je dis « la bibliothèque numérique existe déjà ». Mais pour moi, elle existe déjà, en ce sens que nous vivons, alors le terme est peut-être un peu excessif, une espèce de bibliothécarisation du monde. Tout est bibliothèque aujourd'hui. C'est une chose qui me frappe. Qui aujourd'hui ne classe pas ses propres documents, en tout cas ses propres images, ses photographies par exemple, dans son ordinateur personnel, en utilisant non seulement des techniques de numérisation, mais des logiciels d'indexation. La question de l'indexation devient une question commune, dont tout le monde s'empare. C'est quand même assez extraordinaire. Alors qu'il y a encore peu de temps, il y a une quinzaine d'années, la question même de l'indexation était l'apanage des bibliothécaires. À l'autre bout du spectre, les scientifiques qui s'intéressent au génome humain, que font-ils ? Sinon, constituent une bibliothèque, elle aussi indexée, avec des index différents, avec des langages d'indexation différents. Mais je dirais que, quelles que soient les activités d'aujourd'hui, on assiste à un phénomène de bibliothécarisation, qui est lié à un phénomène d'expansion, c'est comme ça que je le comprends, que je le vis, d'expansion du fait bibliothécaire, un peu au sens de l'expansion de l'univers, expansion et complexification du phénomène bibliothécaire. Alors, on a parlé du groupe de travail de la BNF, 89-90, hein, donc il y a plus de 15 ans. Je me souviens très bien, au fond, de l'impasse dans laquelle on s'est retrouvé. Et pourtant, les personnes de ce groupe étaient férues de numérisation. Si ce n'est que pour eux, numériser, c'était prendre les livres de la BNF, les numériser, si possible en mode texte, les mettre dans une machine, dans un ordinateur, et appliquer à ces corpus, à ce corpus ou ces corpus, des logiciels de recherche d'occurrence, de réseaux sémantiques, etc., etc., dans l'esprit de creuser encore un peu plus le corpus, dans l'esprit, pour le philosophe, d'aller plus loin dans la comparaison des textes de tel ou tel philosophe ou de différents philosophes. On était encore dans une logique de creusement, d'involution, en quelque sorte, de la recherche à l'intérieur d'un corpus. Il se trouve que j'avais des amis, des copains, disons, scientifiques, mathématiciens, qui, eux, utilisaient déjà Internet, qui m'avaient montré comment entrer dans la bibliothèque de Berkeley en 89, enfin déjà en 86, même 86-87. Je connaissais très mal tout ça. Mais au sein de ce groupe, je me suis aperçu que, sans doute, la vraie révolution n'était pas dans la numérisation des textes. Bien sûr que c'était très intéressant de les numériser, de les triturer à outrance. La révolution, elle était dans l'ouverture du corpus sur d'autres corpus, et donc dans Internet. Et bien, curieusement, le groupe de travail a souhaité faire l'impasse sur la question d'Internet. Et on a abouti à un projet, le PLAO, extrêmement intéressant, mais qui n'était, me semble-t-il, pas à la hauteur de l'enjeu. Donc, j'illustre, à travers cet exemple, qui est pourtant ancien, une certaine forme d'erreur qu'on peut faire, me semble, non pas une erreur, car c'était très bien de numériser et de se poser la question de la numérisation, mais je dirais une demi-mesure, dont on est souvent coutumier d'ailleurs en France, qui fait qu'on n'a pas pris à bras-le-corps la question. Alors, très rapidement, je vais essayer d'être très rapide, ce qui m'intéresse personnellement en tant que bibliothécaire, c'est l'avenir du texte et plus précisément l'avenir du livre. Un bibliothécaire, c'est quelqu'un qui manipule les livres. Or, il me semble, et je reprends l'expression de Roger Chartier, l'ordre du livre, c'est-à-dire le dispositif culturel qui s'est articulé pendant des siècles autour du livre, cet ordre du livre est en train, non pas de disparaître, certainement pas. Les livres ont un bel avenir, mais il est en train de se retrouver encapsulé, en quelque sorte, dans un phénomène qui le dépasse. Et par là même, eh bien, je dirais qu'il perd sa fonction de pivot, de cœur, de centre de l'ensemble de la culture telle que nous l'avons connue pendant des siècles. Et c'est ça le phénomène très important, c'est que la centralité du livre disparaît. Le livre non, mais la centralité disparaît. Un livre, très rapidement, pour moi, bibliothécaire, qu'est-ce ? Alors, il y a deux écoles en histoire du livre. Il y a ceux qui valorisent et survalorisent, à mon avis, la question de l'intériorité. Le livre en tant que miroir de soi, en quelque sorte, à travers la lecture. Et puis, il y a ceux dont je fais partie qui pensent que le livre est d'abord un outil de communication. Ça ne l'empêche pas d'être, par ailleurs, une merveilleuse, quand il est bon, quand ils sont bons, de merveilleux moyens d'approfondir et de construire son intériorité. Mais je rappelle souvent l'expression de Proust, dans un très beau livre sur la lecture. Proust dit, c'est extraordinaire comme expression, la lecture est ce miracle fécond de la communication dans la solitude. La communication. Le livre est un outil de communication. C'est une interface stable, le livre, le papier, le bon à tirer, le dépôt légal, dans une certaine mesure, qui donne encore plus de stabilité au livre, une interface entre des subjectivités. Et ce qui est merveilleux avec le livre, parce que le livre circule à travers la circulation commerciale, la multiplication des exemplaires, eh bien, le livre permet à une infinité, ou un grand nombre, disons, de lecteurs, dans l'espace et dans le temps, là on rejoint la question de l'idéologie, de la transmission, de dialoguer par livre interposé. À la fois en proposant autant d'interprétations qu'il y a de lecture, donc production de la diversité, production non pas du désordre, du chaos, mais de la diversité, et en même temps bouclage, rebouclage sur le livre, et par conséquent constitution d'une communauté qui se tient, d'une communauté de savoir, qui combine diversité et unité, et qui débouche, grâce à la bibliothèque d'ailleurs, ensuite sur l'espace public, sur la notion d'espace public, de la pensée, l'espace public de la connaissance, qui est une notion tout à fait fondamentale. Alors, je n'ai pas le temps de développer le sujet, il y a tout un modèle éducatif qui en découle, la question de la représentation, Régis Debray, dans un livre récent sur les festivals d'Avignon, a dit, on n'est plus dans l'ordre de la représentation, on est dans l'ordre de la performance, et plus la représentation. Ben oui, le grand problème de l'art contemporain et de la pensée aujourd'hui, c'est que la question même de la représentation est subvertie. Or, le livre, et à mon avis les bibliothèques, sont dans l'ordre de la représentation. Une représentation multiple, diverse, mais on est dans l'ordre d'une représentation du réel. La bibliothèque, pour moi, c'est une espèce de bassin de décantation, où on accueille toute la diversité du monde, y compris la plus chaotique, la plus marginale. C'est ça, une vraie bibliothèque. C'est ce qui est extraordinaire dans une bibliothèque. Mais cette diversité, on l'organise. On l'organise par filtres successifs, l'organisation des salles, les fichiers, la séparation entre les usuels, les ouvrages de référence, voir l'enfer. J'ai récupéré le fond des Jésuites de Chantilly, donc je sais de quoi je parle. Bon, il y a une organisation qui est basée sur une épistémologie. J'en parlais il y a quelques instants rapidement, une épistémologie, je dirais, encyclopédique ou encyclopédiste, qui est fondée sur une idée de la connaissance typique des Lumières, à laquelle personnellement j'adhère de toutes mes fibres, par beaucoup de côtés, bien évidemment, j'ai été éduqué, qui part du principe qu'au fond, la réalité est structurée d'une certaine façon. Et que cette réalité-là, eh bien, elle peut justement être représentée, certes à travers des regards différents, mais elle peut être représentée à travers des regards différents qui peuvent s'organiser parce qu'ils réfèrent à cette réalité qui fonctionne comme une encyclopédie. Et c'est ça, la bibliothèque, à mon avis, à mon avis. Or, cette topologie, je dirais, homogène de l'encyclopédie, qui fait qu'il y a commensurabilité, comme disent les philosophes, entre les différents points de vue. Vous n'avez pas la même opinion que moi. Mais on se comprend quand même. Vous n'avez pas le même point de vue sur la réalité, mais on se comprend quand même. Cette commensurabilité qui est ancrée dans l'épistémologie de l'encyclopédie, elle est le fondement même de l'espace public, de la bibliothèque et de tout ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Le problème, c'est que cette topologie est en voie d'être vrillée, comme diraient les topologues. Elle est en voie de changer d'ordre. On entre dans une topologie qui existe, qui va bien falloir structurer, qui va poser les mêmes problèmes de communication entre les hommes, qui va poser les mêmes problèmes de dialogue, de vivre ensemble, etc., de pensée commune, mais dont il faudra bien connaître les différents éléments, la façon de fonctionner pour adapter nos outils. Et on est aujourd'hui dans ce tournant. Comment adapter les bibliothèques à cette évolution topologique ? Très vite, la révolution numérique. Tu m'arrêtes, hein, Gérald, parce que... révolution numérique. Je vais aller très vite. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais ce qui est intéressant, c'est l'ensemble de ces points. Hypertexte dynamique auto-organisateur. Hein. C'est d'abord ça, hein. L'hypertexte en réseau, dynamique parce que ça change sans arrêt, auto-organisateur parce qu'il y a tellement d'acteurs, et surtout, il y a une intrication, c'est ce qui me paraît peut-être le phénomène le plus important, une telle intrication entre contenu, langage, donnant accès au contenu, hein, c'est-à-dire un mode d'indexation, algorithme de recherche, et usage, et donc point de vue, il y a une telle intégration de ces trois éléments-là, contenu, langage, usage, que le réseau hypertexte des textes auxquels on a accès aujourd'hui à travers Internet fonctionne comme un ensemble dynamique relativement auto-organisateur. Deuxième élément, interactivité performative. Ça a été souvent dit, le lecteur est en même temps le lecteur écrit, celui qui écrit est lecteur, brouillage des frontières entre ces deux rôles. Lorsque j'écris à travers Internet, j'ai tendance à être performatif, c'est-à-dire que je sais que ce que j'écris, c'est un peu comme de la parole, c'est de la quasi-parole qui va provoquer une réaction. Hein, donc je performe, je suis plus simplement en train de représenter les choses sur la page blanche, en attendant qu'éventuellement quelqu'un lise mon texte. J'ai une relation beaucoup plus directe à celui qui me lit. Le troisième élément qui me paraît important, qui là, je dirais, est plus problématique, hein. C'est une intuition que j'ai, je serais incapable d'aller très loin sur ce terrain, c'est la question de la mémoire. J'ai le sentiment que la séparation, là encore, entre support, contenu et langage, qui disparaît, ou en tout cas qui se brouille, fait que nous sommes confrontés, en particulier nos autres bibliothécaires, à la question de la migration, hein, migration des contenus et des langages donnant accès aux contenus, une intrication de l'actualisation de ces contenus, hein, ce qu'on écrit au présent, et ce qu'on mobilise, ce qu'on évoque en écrivant au présent à partir de corpus déjà faits. Il y a une espèce de coprésence du passé et du présent dans les réseaux de connaissances d'aujourd'hui, qui fait que la question du patrimoine, me semble-t-il, est en train d'évoluer. Là aussi, j'ai dit que tout était bibliothèque, bibliothécarisation du monde, tout est patrimoine, mais plus rien n'est patrimoine, en ce sens que le patrimoine, qui jusqu'à présent était quand même fondamentalement basé sur la notion de trace, de séparation de la trace, enfin, de séparation de conservation du support en tant que support, le livre par exemple, et de distinction entre le support et le contenu, cette notion de patrimoine, me semble-t-il, évolue et nous pose des problèmes de gestion de la mémoire, la gestion de la mémoire devenant une espèce de gestion de la mémoire au quotidien. D'où d'ailleurs la question qu'on peut se poser légitimement en tant que bibliothécaire par rapport à l'archivage du web, un dépôt légal du web, oui. Monsieur le Président, je serai à votre place, je ferai ce que vous faites. C'est-à-dire, vous êtes en train de mettre en place un archivage du web, vous avez raison, et il est évident que c'est audacieux, il faut le faire, mais je ne peux pas en même temps me demander si c'est vraiment la voie ou la seule voie de gestion de la mémoire. Alors, les enjeux bibliothécaires d'aujourd'hui. Je dirais que il y a deux solutions pour bibliothécaires aujourd'hui, trois solutions, soit de démissionner, de dire bon, on ne peut plus rien faire. C'est vrai que certaines bibliothèques perdent du public. Il faut quand même sans doute pas la BNF ni la bibliothèque du Centre Pompidou, c'est tout à fait clair. Elle est pleine en permanence, la BNF aussi. Enfin, je dirais que certaines bibliothèques aujourd'hui sentent un certain tassement.
Non, même la BPI.
Il y a une autre solution qui consiste à vouloir absolument reprendre le modèle classique d'organisation. À mon avis, c'est une voie qui voit l'échec, ou alors on essaie de se hausser à la hauteur de l'enjeu. L'enjeu, il est toujours le même. Il y a un invariant de cette saga du texte depuis des centaines d'années, voire des millénaires. C'est communiquer à travers une expérience commune de pensée. Communiquer à travers une expérience commune de pensée. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Et par conséquent, construire un espace public de la connaissance, je l'ai dit. Donc, le problème reste le même. La différence étant qu'aujourd'hui, compte tenu de la révolution numérique que je viens d'esquisser très très rapidement, mais qu'aujourd'hui beaucoup de gens ici présents connaissent, nous sommes confrontés, je l'ai dit au départ, à une forme d'expansion du champ, du savoir, qui fait que l'enjeu, me semble-t-il, et c'est peut-être parce que je suis un bibliothécaire de lecture publique à Lyon, que j'ai un réseau de bibliothèques avec une très grosse bibliothèque centrale, mais des petites bibliothèques de quartier, et que je suis très sensible à la notion de proximité, je pense que la grande question qui se pose aujourd'hui à nous, c'est l'articulation de la plus grande singularité et de la plus grande proximité, proximité et singularité, des points de vue, des usages, avec la plus grande extension possible du champ de la connaissance et de la communication avec les autres. C'est ça la grande question qui se pose. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. La réponse à cette question, elle passe par 3 ou 4 ou 5 pistes, dirais-je. Au-delà des livres, les interactions. Vous l'avez rapidement évoqué en me citant, en quelque sorte. Je parle de process, de processus. Ce que nous devons arriver à maîtriser en tant que bibliothécaire, et je dis bien maîtriser, je crois qu'il y a une, non pas une prise de pouvoir, mais le bibliothécaire a le devoir de s'emparer d'une certaine maîtrise de ce phénomène, ce ne sont plus simplement les objets, les livres, etc., mais les interactions qui sont l'essence même de la connaissance aujourd'hui. Deuxièmement, la relation entre bibliothécaire et usager. L'expérience partagée entre bibliothécaire et usager me paraît un deuxième point fondamental. Le bibliothécaire, de plus en plus, sera un médiateur, c'est un mot galvaudé, c'est un mot qui philosophiquement parle, enfin, a un sens, je dirais presque philosophique aujourd'hui, nouveau. C'est le bibliothécaire qui a une longueur d'avance sur l'usager, parce qu'il a une pratique quotidienne, donc il a forcément une longueur d'avance, mais il apprend en même temps que l'usager, en aidant l'usager à trouver, à poursuivre une thématique avec lui. Alors, je n'ai pas le temps de développer un exemple très concret, le guichet du savoir, la bibliothèque de Lyon, la BPI expérimente également ce genre de services, ce sont des services de renseignement à distance, qui à la fois rendent service en répondant à des questions, mais qui donnent des outils de recherche aux usagers auxquels on répond. Mais on ne se limite pas à leur dire « apprenez les outils » ou « allez voir dans le fichier ». Dans le temps, on disait « allez voir dans le fichier ». Non, on répond, on donne des contenus, on chemine avec le lecteur et en même temps, on lui transmet modestement, je dirais, une pratique bibliothécaire. Et en même temps, on construit la pratique bibliothécaire de la communauté, des usagers eux-mêmes. La société, je l'ai dit au départ, étant elle-même bibliothécarisée et l'enjeu du bibliothécaire étant de faire de chacun une espèce de bibliothécaire, si je puis dire. Je vais peut-être un peu loin. Troisième point, bibliothécaire à bibliothécaire, il y a des interactions à développer. Est-ce que la bibliothèque européenne est une réponse? Très certainement, c'est une réponse, parmi beaucoup d'autres. J'ai le sentiment que la géométrie, les partenariats à géométrie variable, compte tenu de ce que j'ai dit sur la proximité, sont la voie évidente, inévitable. La multiplication des partenariats est inévitable, beaucoup plus une coopération centralisée. Mais là, je dirais que mon propos est un peu connoté, je n'ai pas le temps de développer, tel que nous la pratiquons beaucoup en France, je dirais, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, coopération centralisée, qui, à mon avis, n'est pas toujours couronnée de succès. Relation usager-usager, c'est le quatrième point. Alors, vous avez un modèle qui va faire frémir tout le monde ici, le modèle Napster, en partant du principe que les usagers, les groupes, etc., sont eux-mêmes porteurs d'une pratique bibliothécaire. Il me semble que demain, la bibliothéconomie devra se préoccuper d'interconnecter, et je dirais que au fond, les blogs sont dans une certaine mesure, de façon extrêmement approximative, je dirais très, 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 très critiquable, une approche. Le rôle des bibliothèques sera très certainement de faciliter l'échange d'informations entre les usagers et la conservation de cette information, sans que pour autant la bibliothèque récupère en quelque sorte les corpus par devers elle. Et puis le dernier point, mais je ne développerai pas, c'est la question de la mémoire. Je crois que les bibliothèques auront de plus en plus un rôle de constitution, et pas simplement de récupération des traces de la mémoire, mais de constitution de la mémoire au présent avec les usagers eux-mêmes. Je pourrais citer l'exemple de la BM de Lyon qui actuellement constitue un fonds, un centre de documentation de la mémoire gay. C'est assez intéressant parce que ça recoupe la perspective politique que vous avez ouverte. Il y avait deux solutions pour... je vais très très vite pour la communauté gay lyonnaise. C'est soit de créer quelque chose ad hoc, pour les gays, entre les gays, etc., ou au contraire de rejoindre l'espace public, à savoir une bibliothèque municipale, et avec la bibliothèque municipale, tout en respectant la singularité, je dirais, du point de vue, mais en utilisant le savoir-faire de la bibliothèque et en rejoignant l'espace public, de constituer la mémoire gay. J'ai pas le temps de développer. Non, je termine simplement en disant.
On sait qu'Internet est un univers en expansion, mais il faut.
Je termine simplement en disant que la question du numérique est importante, mais que, en tout cas pour moi, bibliothèque de lecture publique, la question de la bibliothèque physique, y compris la petite bibliothèque de quartier, plus que jamais est une question importante. Dans ce monde, mais là je vais dire ce que tout le monde pense dans la salle, il n'y a rien de très original, dans ce monde où tout devient très compliqué, vous l'avez dit, en tout cas moi je l'ai dit, je pense en avoir donné le sentiment de cette complexité, on aura de plus en plus besoin de points d'ancrage avec des espaces, des lieux, une inscription dans l'espace, dans la singularité d'un espace, une ville, un quartier, avec des bibliothécaires qui pourront accompagner les usagers, les citoyens, dans la recherche d'informations, de connaissances, etc. Donc je me garderai bien de terminer sur le numérique. Je crois qu'il faut terminer sur la bibliothèque, la plus physique, si je puis dire, mais à condition qu'elle intègre les perspectives que nous avons esquissées ce soir. Voilà.